Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet donc intitulé la fiabilité de l'enseignement chrétien. Donc, l'idée principale de ce qu'on va faire, c'est voir pourquoi la religion chrétienne, elle est plus fiable, elle est plus logique, ou bien plus crédible que les autres religions, les autres doctrines. Et fiabilité en arabe, c'est mesdaqiyya. Ok? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Les deux questions principales qu'on va se poser sont donc qu'est-ce qui incite un non-croyant à croire en Dieu de manière générale et surtout au christianisme? Puis, qu'est-ce qui rend l'enseignement chrétien plus logique, plus convaincant et donc plus fiable que celui des autres religions? Donc ça, c'est les deux idées principales qu'on va essayer de prouver tout au long de la présentation. Okay? Donc là, vous avez entre les mains des extraits des paroles de Gandhi. Pourquoi Gandhi? Parce que justement, comme on va prêcher le christianisme à des non-croyants, il faut voir ce que pensent les non-croyants de notre religion. Et donc là, Gandhi est par excellence un exemple d'un non-croyant qui a été impressionné par l'enseignement chrétien. Et ça, on va le voir dans ces extraits. On va le lire ensemble et après on va aborder les questions du christianisme. Donc je vais vous dire quel effet l'histoire du Christ, telle qu'elle est racontée dans le Nouveau Testament, a eu sur l'étranger que je suis. Quand j'arrivais parce qu'il a lu l'Ancien Testament, puis il a lu le Nouveau Testament, et au sermon sur la montagne, je commençais à comprendre l'enseignement du christianisme. Donc là, juste un premier point, que le sermon donc sur la montagne, c'est la constitution, ou bien dustur, ou bien la loi principale de notre religion. Et justement, ça impressionne même les non-croyants. Et l'enseignement du sermon sur la montagne fit écho à quelque chose que j'avais appris dans mon enfance, à quelque chose qui me semblait une part de moi-même. Donc, même pour les non-croyants, les enseignements chrétiens représentent quelque chose de naturel qui correspond au bon sens ou bien à l'humanité de chacun de nous. De tout ce que je lisais, ce que je retins pour toujours était que Jésus vint pour établir une loi nouvelle, bien qu'il ait dit qu'il n'était pas venu pour apporter une nouvelle loi, mais pour greffer quelque chose sur la vieille loi de Moïse. Eh bien, oui, il la changea de telle façon qu'elle devint une nouvelle loi. Donc justement, on lit dans l'Évangile selon saint Matthieu que le Seigneur n'est pas venu pour détruire les anciens enseignements donc de l'Ancien Testament, mais c'est pour compléter cet enseignement. Et donc là, ce que dit Gandhi, c'est que le Seigneur il a tellement ajouté à l'Ancien Testament que l'Ancien Testament est devenu une sorte de nouvelle loi pour tout le monde, parce que c'est beaucoup plus, on va dire, immatériel, c'est beaucoup plus divin que les enseignements de l'Ancien Testament. Donc il donne un exemple, ne plus rendre œil pour œil et dent pour dent, mais être prêt à recevoir deux coups quand on vous en a donné un, et faire 2 kilomètres quand on vous a demandé d'en faire un. Donc c'est ça donc le verset en arabe, Melepteni. Donc c'est le sermon sur la montagne qui m'a fait aimer Jésus. Okay? J'ose dire que je n'étais jamais intéressé par le Jésus historique. Donc, étant un non-croyant, pour lui, la personne historique, c'est-à-dire est-ce que le Jésus en tant que personne historique existait ou non, pour lui, ce n'était pas vraiment la question principale. Pour lui, l'essentiel, c'était l'enseignement lui-même. Peu importe ce que signifiait ce qu'il demande, parce qu'évidemment, pour nous, le Seigneur, c'est Dieu qui s'est incarné pour nous. Mais là, on parle d'un point de vue, donc, d'un athée ou bien d'un non-croyant. Peu importe si quelqu'un a prouvé que l'homme nommé Jésus n'a jamais existé et si ce qui est raconté dans les évangiles est une invention de l'imagination de ce qui les ont écrit, car le sermon sur la montagne serait encore vrai pour moi. Donc même, c'est-à-dire d'après Gandhi, même si on va prouver que la personne du Christ, peut-être c'est une personne normale, ou bien que l'évangile a subi des modifications tout au long de ces siècles, pour lui, ces enseignements seront toujours vrais. Donc ça montre dans quelle mesure vraiment l'enseignement chrétien, c'est c'est très solide et ça correspond donc aux attentes de tous les êtres humains. Par conséquent, en lisant toute l'histoire sous ce jour, il me semble que le christianisme reste encore à être vécu, à moins qu'on ne dise que là où il y a un amour illimité et aucune idée de vengeance, c'est le christianisme qui est vécu. Donc là, c'est une idée principale de l'enseignement chrétien, c'est l'amour. Donc si on veut résumer l'enseignement chrétien en un seul mot, on peut dire que c'est l'amour. Donc l'amour envers Dieu et l'amour envers l'autre. Mais alors, il dépasse toutes les frontières et tout enseignement livresque. C'est quelque chose d'indéfinissable qui ne peut pas être prêché aux hommes, qui ne peut pas être transmis de bouche à oreille, mais du cœur au cœur, puisque ça relève juste de l'amour. Bien que nous chantions gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, il n'y a aujourd'hui ni gloire à Dieu ni paix sur terre. Quand la paix véritable sera établie, nous n'aurons plus besoin de démonstrations, mais cela retentira dans nos vies, non seulement dans nos vies individuelles, mais aussi dans nos vies collectives. Nous pourrons dire alors que le Christ est né. Donc il prouve ça dans le slide suivant. Alors nous ne penserons pas qu'un jour particulier de l'année est celui de la naissance du Christ, mais que celle-ci est un événement qui revient sans cesse et peut s'accomplir dans la vie de chacun. Donc ça montre dans quelle mesure vraiment le Noël, ou bien la naissance de la nativité du Seigneur, c'est pas juste un jour de l'année, ou en fait un événement particulier, mais c'est toute une vie continue. Ok ? Donc après avoir vu le point de vue d'un non-croyant ou d'un athée vis-à-vis de l'enseignement chrétien, on va voir donc trois points principaux. On va commencer par les singularités du christianisme. Qu'est-ce qui distingue l'enseignement chrétien des autres religions ? Puis on va voir un peu plus en détail le point de vue chrétien sur huit points principaux, donc la définition d'un Dieu, l'être humain, le corps, le mal ou bien le diable, la perfection, la relation avec l'autre, la vie sur terre, la vie éternelle, et après on va conclure. Ok ? Donc, remarque très importante avant de commencer, et juste pour que ça soit clair dès le début, l'objectif donc n'est pas de critiquer ni de juger les autres, donc on ne veut pas dire que nous, donc on est bon et que les autres sont mauvais, mais l'idée juste, c'est de voir pourquoi l'enseignement chrétien est différent, quel est l'essence du christianisme par rapport aux autres religions. Donc certaines questions sont hors sujet, et seul Dieu, il connaît la réponse. Est-ce que les autres sont bons? Est-ce qu'ils peuvent hériter le royaume éternel? Donc c'est pas à nous de juger ça. Donc juste l'idée, dès le début, c'est de voir pourquoi on est différent, et pourquoi on est plus crédible. Ok ? Singularité du christianisme. Donc on va voir trois points qui distinguent le christianisme des autres religions. Un, c'est que c'est une religion simple. Donc si on veut résumer le christianisme, on peut dire que le christianisme, c'est l'amour. Et même le Seigneur, il a dit ça à plusieurs instances dans l'Ancien et le Nouveau Testament, en disant que si on veut résumer donc toutes les lois de l'Ancien Testament ainsi que le Nouveau Testament, c'est aimer ton Dieu et aimer l'autre. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc ça, c'est la définition la plus simple du christianisme. Donc un, c'est que c'est une religion simple. Deux, c'est une religion perfectionniste. Donc notre objectif ultime, c'est le Seigneur lui-même. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il s'est incarné, donc c'est Dieu qui a pris le corps humain pour nous donner l'exemple que nous aussi, on peut hériter donc l'enfance de Dieu. Donc on peut devenir des enfants de Dieu. Et comme on le dit dans les Tasbihat Nisf al-Layl, donc il a pris ce que nous avions, donc notre humanité, et lui il nous a donné ce qu'il avait, c'est sa divinité. Ok ? Donc pourquoi c'est une religion perfectionniste ? Parce que notre exemple ultime, c'est le Seigneur. Et donc là, Saint Paul il le dit dans l'Épître aux Éphésiens, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok, donc aucune autre religion ne peut se mettre comme objectif Dieu lui-même. C'est-à-dire, nous, notre statut parfait ou bien notre objectif de perfectionnisme, c'est le Seigneur. Alors que dans, normalement, dans les autres religions, on peut devenir parfait, c'est-à-dire il y a une certaine limite, mais on ne peut jamais atteindre la perfection de notre Dieu. Évidemment, Dieu est le seul parfait, mais c'est toute une vie ou bien tout un effort qu'on déploie afin d'arriver à cette perfection du Christ. Troisième caractéristique, c'est que c'est une religion appliquée. Donc l'essentiel de notre foi, ce n'est pas un ensemble de dogmes ou bien de principes abstraits, mais c'est une vie qu'on doit vivre. Donc le christianisme est une vie et un comportement. Et donc comme le dit Saint Jacques dans son épître, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Donc pour résumer le christianisme, donc c'est une religion simple qui est basée principalement sur l'amour. Deux, c'est une religion perfectionniste ayant pour objectif donc le Seigneur lui-même. Et trois, c'est une religion appliquée, donc c'est un comportement. Il faut donc faire une sorte d'une mise en application de tout ce qu'on apprend. Donc comme on a vu tout à l'heure dans la présentation de la Bible, c'est qu'il faut toujours choisir un verset de la Bible pour l'appliquer dans notre vie. Ok ? Donc là, on va commencer le deuxième point de la présentation, c'est on va voir donc le point de vue chrétien sur 8 points principaux. Tout d'abord, on va voir le point de vue chrétien sur Dieu. Donc, on va nommer donc les différentes religions avec A, B et C, et puis la religion chrétienne à part. Donc, on a une religion A qui dit donc que Dieu existe, il est grand, fort, redoutable, il est le juge, il est impossible que Dieu se fasse homme et communique avec les hommes. Donc, Dieu est vraiment quelqu'un d'inaccessible sur son trône là-haut, et nous on est sur terre. Donc ça c'est une religion A. Une religion B, c'est que toute chose peut être Dieu. Donc l'arbre est un Dieu, la femme est un Dieu, les taureaux sont des dieux, et ainsi de suite. Comme les pharaons par exemple, ils trouvaient dans la nature, ils avaient plein de dieux. Donc tout est Dieu, Dieu est dans toute chose de l'univers, Dieu donc toute chose dans l'univers est Dieu. Ok ? Religion C, c'est adoration des idoles, donc des statues, comme les Grecs ou les Romains. Alors que la religion chrétienne, on va voir que c'est vraiment, on adopte toujours un point de vue intermédiaire. Et donc là, il y a une citation d'un des pères de l'Église, je ne me rappelle plus du nom de ce père qui a dit cette citation. Mais en arabe, cette citation, c'est « Tariq al-wasat khalasat kathirin ». Donc, la voie intermédiaire, elle a sauvé beaucoup de personnes. Et donc, c'est ça, justement, le christianisme. Donc, Dieu, c'est vrai que Dieu, il est grand et fort, donc il est le Pantocrator, mais en même temps, dans son amour, il s'est fait homme, donc il s'est incarné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est vrai qu'il est grand et fort, donc c'est une caractéristique principale de Dieu, mais en même temps, ce qui le distingue, c'est qu'il s'est incarné pour nous sauver. Donc il s'est révélé à nous et il communique avec nous. Et même jusqu'aujourd'hui, dans toutes nos prières, on part toujours de la présence de Dieu avec nous. Et il nous a tellement aimés qu'il nous a donné donc des choses matérielles pour ressentir sa présence. Par exemple, quand on va à la messe, on a son corps et son sang présents avec nous. Donc ça, c'est le vrai corps, le vrai sang. Dans toutes les autres religions, on n'a pas ce corps et ce sang qu'on peut avoir tous les jours. Il nous a donné le Saint-Esprit à travers, par exemple, l'huile, le Mayroun, dans le sacrement de la confirmation. Et ainsi de suite. Donc, il nous a donné plein de choses matérielles pour confirmer sa présence avec nous. Et donc, c'est là vraiment ce qui distingue la religion chrétienne par rapport aux autres religions. Deuxième point, l'être humain. Donc, on a une religion A qui dit que l'homme, il est le centre du monde, il est très important. Une autre religion qui dit que l'homme, il est méprisable, il n'a aucune valeur. Donc l'homme, c'est vraiment impur, c'est une créature, c'est la pire des choses que Dieu a créées. Mais la religion chrétienne a un point de vue totalement différent. Donc l'homme, il n'est pas le centre du monde, Mais il est la chose la plus importante que Dieu a créée, et ça il l'a dit dans le livre de Genèse, quand il a dit que donc il a créé toutes les autres créatures, et à la fin, quand il a créé l'homme, il a dit qu'il a vu que l'homme, c'est vraiment la meilleure des choses qu'il a créées. Donc l'homme est une créature de Dieu, mais c'est la créature que Dieu aime par-dessus tout dans l'univers. Ainsi, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, faisant l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il nous a créés pour notre bonheur. Ok ? Donc, deuxième différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que l'homme n'est ni le centre du monde, ni une créature méprisable, mais c'est une créature très différente par rapport à toutes les autres créatures. C'est la créature aimée de Dieu. C'est la créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Et ceci n'existe point pour les autres religions, parce qu'il n'y a aucune autre religion qui dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais par contre, dans le christianisme, c'est confirmé. Ok ? Donc ça, c'est troisième point. Deuxième point. Troisième point, donc, c'est le corps. Et donc là, c'est vraiment le point le plus important. Parce que plusieurs religions, ils disent que le seul but de la vie, c'est le plaisir du corps et son confort. C'est-à-dire que, par exemple, comme ce qu'on lit dans la Bible, mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir. Donc il n'y a aucun intérêt à la vie éternelle. Le corps, c'est l'objectif ultime de la vie. Il faut donc profiter de tous les plaisirs matériels de la vie. Alors que la religion, que les autres religions B, donc c'est un autre point de vue complètement contradictoire, c'est que le corps lui-même, il est impur. Il faut se laver avant de faire n'importe quelle prière. Il faut faire souffrir son corps, car le corps est la source de tous les maux ou bien de tous les péchés, et ainsi de suite. Par contre, le christianisme, toujours un point de vue, on va dire, plus logique, c'est que notre corps, il est saint. Et comme donc l'a dit Saint Paul dans son épître, notre corps, il est le temple de Dieu. Une fois qu'on sera baptisé et qu'on va avoir la confirmation, donc El Mayroun, on va devenir le temple de Dieu. Donc ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc le corps, il est saint parce qu'il a été créé par Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le corps a été sanctifié par l'incarnation du Seigneur, parce que c'est pas normal que le Seigneur prenne notre corps et en même temps que ce corps reste toujours impur, c'est pas logique. Donc, puisque le Seigneur il a pris la forme donc d'un homme, il s'est fait homme pour nous. Cette incarnation a sanctifié le corps physique, donc matériel, et ce qui prouve que le corps, il est saint dans la religion chrétienne. Et donc, nous devons respecter ce corps et préserver sa chasteté ou bien sa pureté. Ok ? Donc, jusqu'à maintenant, on a vu trois points. Donc, on a vu le point de vue du christianisme donc en ce qui concerne Dieu. Donc, Dieu n'est ni quelqu'un donc d'inaccessible, de très fort sur son trône, ni quelque chose qui est tout à fait normal dans la nature, mais Dieu, il est amour, Dieu, il s'est incarné pour nous, et il s'est fait homme. Ok ? Deuxième point, on a vu, donc, l'être humain. L'être humain n'est ni une créature méprisable, ou bien une créature sans valeur, ni une créature qui a une valeur infinie, comme si elle était Dieu, mais l'être humain, c'est la créature aimée de Dieu, qui a été créé par Dieu pour son bonheur et par l'amour de Dieu. Troisième point, on a vu, donc c'est le corps. Donc pareil, le corps n'est pas donc quelque chose de très de méprisable ou bien d'impur. Le corps n'est pas non plus le seul but de la vie, à qui il faut donc donner tous les plaisirs possibles et imaginables, mais le corps et le temple de Dieu. Dieu, il s'est incarné, il a pris ce corps, ce qui a sanctifié le corps dans la religion chrétienne. Quatrième point, c'est le mal. Donc, certaines religions disent qu'il y a un Dieu pour le bien et Dieu pour le mal. Par exemple, chez les pharaons, il y avait un Dieu pour le soleil et le Dieu de l'obscurité. Ok ? Religion B, le bien et le mal n'existent pas. Tout est relatif, tout dépend de l'époque, des modes, de notre jugement, de notre intérêt. Donc il n'y a pas vraiment cette distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors que la religion chrétienne, qu'est-ce qu'elle en pense ? Donc elle dit que le mal, il existe, ça on est d'accord, mais Dieu, puisqu'il est bon, donc il ne peut pas créer quelque chose de mauvais. Et donc l'exemple toujours qu'on utilise, c'est qu'on peut, si on veut définir l'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Mais l'obscurité en soi n'existe pas. Donc l'obscurité, quand est-ce qu'elle existe ? Elle existe quand il n'y a pas de lumière. Pareil, le mal, il existe quand il n'y a pas le bien. Donc Dieu, quand il a créé la meilleure chose donc, pour toutes ses créatures. Même les anges, il les a créés tous des anges saints, purs. Et quand est-ce que le mal il a apparu ? Donc il a apparu quand un des anges il a voulu donc se révolter contre Dieu et il a dit je voudrais un trône aussi élevé que le trône de Dieu. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le mal aussi a apparu. Donc Dieu a créé le mal, Dieu n'a créé que le bien, et donc ça c'est ce qui est confirmé donc dans le livre de Genèse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela a été très bon, mais évidemment le mal il apparaît quand nous nous éloignons de Dieu. Donc ça c'est pour nous notre vie. Donc la définition du mal d'un point de vue chrétien, c'est l'absence du bien, donc c'est l'éloignement de Dieu. Ok ? Cinquième point, c'est la perfection. Donc, une religion A prétend que c'est du réalisme. Personne n'est parfait. On ne peut pas devenir parfait. La vie est un objectif en soi. On ne peut jamais être parfait ni améliorer notre sort. Donc, notre sort, il est défini. On ne peut pas l'améliorer. Religion B, l'idéalisme, c'est que on peut devenir parfait avec nos capacités personnelles. Donc, sans penser que Dieu pourrait nous aider, on peut, nous, tout seul, devenir parfait. Ce qui n'est pas vrai et ce qui n'est pas normal non plus. Par contre, la religion chrétienne, elle dit que, donc, c'est vrai qu'on ne peut jamais être parfait tout seul, mais évidemment, par la grâce de Dieu, on peut devenir parfait. Et c'est ce qui distingue donc l'effort de la grâce. Donc l'effort, c'est à nous de le faire, mais la grâce, ça vient de Dieu. Donc je ne peux jamais devenir parfait tout seul. Donc ça c'est un point. Un deuxième, notre objectif ultime est Dieu. C'est pour cela que la perfection, c'est vraiment le seuil de la perfection est très élevé. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est pour cela qu'il y a une sorte d'un effort continu qu'il faut déployer afin de devenir parfait. Parce qu'évidemment, afin d'atteindre la perfection du Seigneur, c'est très difficile. Mais ça reste un objectif qu'il faut atteindre. Ok ? Donc il y a toujours une meilleure situation ou un meilleur état. Donc quel que soit notre équilibre au cours de notre vie, on peut toujours améliorer ce sort. Donc la perfection est tout un processus de vie. Sixième point, donc c'est ma relation avec mon prochain, et ça va vraiment distinguer le christianisme des autres religions, c'est que dans la plupart des autres religions, œil pour œil, dent pour dent. Mais ceci n'est pas du tout le cas du christianisme. Parce que c'est la seule religion qui enseigne qu'il faut aimer la personne qui nous déteste, qu'il faut lui donner le visage si on est giflé, et ainsi de suite. Donc ça c'est confirmé dans le sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ce qui vous maudissent, faites du bien à ce qui vous haïssent, et priez pour ce qui vous maltraite et qui vous persécute. Ok ? Donc, aucune autre religion ne parle de ces enseignements très purs, très, très élevés. Ce qui est à l'encontre donc de ce qui est dit par exemple dans la religion A, aimez ce qui vous aime et haïssez ce qui vous haïsse. Ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal à la situation qu'on vit là tous les jours. Donc ça c'est la logique qui veut ça. Mais nous, d'un point de vue chrétien, on ne peut pas aimer ce qui nous aimait et ce qui nous aime et haïr ce qui nous haïsse, Parce que comme l'a dit le Seigneur, et donc qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie si vous faites cela? Mais ce qu'il faut faire, c'est aller donc faire le deuxième kilomètre, donc il met les tenis, et qui est donc aimez vos ennemis, bénissez ce qui vous maudissent, et faites du bien à ce qui vous haïssent. Ok? Donc juste avant de continuer pour récapituler ce qu'on a vu, donc on a vu le point de vue du christianisme en ce qui concerne donc Dieu, en ce qui concerne l'être humain, puis le corps, le mal, ma relation avec mon prochain, et il manque un point qui est la perfection, tout à fait. Ok? Septième point, donc qui sont donc les deux derniers points sont vraiment deux points très importants. Septième point, c'est la vie sur terre. Donc, une religion a dit que notre seul but, c'est la vie sur terre. Donc, il faut profiter au maximum des plaisirs matériels. Leur nom en arabe, il s'appelle donc le renoussiyin, mais en français, je ne connais pas leur nom. La religion B, la vie sur terre n'a aucune valeur. Il ne sert à rien de se fatiguer ou de lutter sur la terre. Il ne faut penser qu'à la mort et l'au-delà. Donc ça, justement, ce que faisaient par exemple les pharaons, c'est que pour la vie de l'au-delà, ils préparaient donc des cimetières énormes avec plein d'offrandes pour la personne qui va mourir, avec tout ce dont il va en avoir besoin plus tard, et ainsi de suite. Mais la religion chrétienne adopte un point de vue qui est totalement différent. C'est que la vie sur terre, donc c'est un talent, wazna, que Dieu m'a donné. Donc il faut faire tout mon possible pour réussir ma vie sur terre, ou bien mes talents, que ce soit donc mon travail, ma vie spirituelle, ma famille, et ainsi de suite. Il faut jouir de la vie sur terre en tant qu'enfant de Dieu. Donc il y a des plaisirs sur terre, mais ces plaisirs, il faut en profiter, mais avec la bonne façon. Comme l'a dit saint Paul, donc toute chose m'est permise, mais toutes les choses ne me conviennent pas. Tout en préparant donc ma vie éternelle. Donc l'objectif de ma vie sur terre, ou bien du fait que je vais profiter de ma vie sur terre, c'est de préparer ma vie éternelle. Et c'est ça justement ce qu'a dit le Seigneur, c'est que pour préparer le royaume des cieux, vous pouvez le préparer dès maintenant. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Et ce qu'on dit aussi dans le Notre Père, que ton règne vienne. Ok? Donc, pour résumer, je prépare ma vie éternelle à partir de ma vie sur terre. Dernier point, donc c'est la vie éternelle. Donc religion A, c'est donc il n'y a pas de vie éternelle. Ça confirme plus ou moins ce qu'on a vu dans le dernier slide. Profitons de la vie sur terre, donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc il n'y a aucune valeur accordée à la vie éternelle. D'autres religions, l'éternité n'est que des plaisirs matériels, avec des fleuves de miel, des fruits qu'on va manger, et ainsi de suite, des jardins, de la nourriture. Mais pour nous, le royaume des cieux n'est ni quelque chose donc qui n'a aucune valeur comme la religion a, ni quelque chose de très matériel, de très tangible, mais c'est la présence avec le Christ. Et donc, ça, ce que saint Luc et saint Paul ont dit donc dans son évangile et dans son épître respectivement, c'est que l'éternité, donc c'est la présence avec le Christ, c'est pourquoi on vit l'éternité sur terre. Et donc le verset, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, et même en arabe c'est encore plus significatif, malakut Allah dakhilkum, pas au milieu de vous, mais dakhilkum. Donc à partir de maintenant, on peut préparer le royaume des cieux, parce que c'est, si on vit avec le Christ sur terre, on peut très bien vivre avec lui à l'éternité. Donc, puisque l'éternité, c'est la vie avec le Seigneur, donc on peut vivre avec le Seigneur, et donc on peut vivre l'éternité sur terre. Saint Paul, il a dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ce qu'il aime. Donc, ça montre dans quelle mesure le royaume des cieux est inimaginable. C'est quelque chose de très beau, au-delà de tout ce qu'on peut attendre. Voilà. Donc, pour résumer ce qu'on a vu donc dans les huit points. Donc, d'abord, avant les huit points, on a vu donc que le christianisme est donc caractérisé par trois caractéristiques principales. Un, c'est que c'est une religion simple, qui est basée donc sur l'amour. Deux, c'est une religion qui est perfectionniste, puisque notre exemple idéal, c'est le Christ. Trois, c'est une religion appliquée, donc il faut faire une mise en œuvre, donc, ou bien une mise en application de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on vit. Puis on a vu la différence entre le christianisme et les autres religions, en ce qui concerne donc 8 points. Un, la différence entre la religion chrétienne et les autres en ce qui concerne Dieu. Donc Dieu n'est pas quelqu'un d'inaccessible ni présent dans toutes les créatures, mais c'est Dieu qui est le Dieu haut, le Pantocrator, mais en même temps qui est le Dieu qui s'est incarné pour nous par son amour. Puis on a vu ce qui distingue le christianisme donc des autres religions en ce qui concerne l'être humain. Donc l'être humain n'est pas une créature donc méprisable, il n'est pas du tout une créature tellement glorifiée qu'on peut penser que c'est un dieu, mais c'est la créature aimée de Dieu, c'est la créature qui a été créée donc à son image et à sa ressemblance. Troisième point qu'on a vu, donc c'est la différence entre le christianisme et les autres religions en ce qui concerne le corps. Donc le corps n'est pas méprisable, le corps n'est pas le seul objectif de la vie, mais c'est le temple de Dieu. Dieu, il s'est fait homme, donc il a pris ce corps, et du coup il l'a sanctifié. Puis, quatrième point, après le corps, on a vu donc la perfection. Donc, dans certaines religions, on ne peut pas devenir parfait, c'est du réalisme. Dans d'autres religions, on peut devenir parfait avec nos propres capacités, c'est l'idéalisme. Alors que le christianisme, il adopte un point de vue qui est différent et qui est on peut devenir parfait, puisqu'un objectif c'est le Christ, mais on ne peut pas le devenir tout seul avec nos efforts, mais avec la grâce du Seigneur. Ok ? Cinquième point, donc c'est quel point ? Le mal. Donc certaines religions disent que le mal, on a un Dieu pour le mal et un Dieu pour le bien. D'autres religions disent que le mal et le bien sont confondus, donc tout est relatif, tout dépend des critères de chacun de nous, il n'y a pas vraiment de critères tranchants entre le mal et le bien, alors que le christianisme, ce qu'il dit, c'est que le mal, c'est l'absence du bien, donc Dieu, il a créé tout ce qui est bien, tout ce qui est... La meilleure des choses ont été créées... au début, tout a été créé par Dieu, et toute sa créature était bonne, et le mal, quand il a apparu, donc, c'était sous forme de l'absence d'un bien. Et donc, l'exemple qu'on a cité, c'est que l'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Puis, sixième point, c'est ma relation avec les autres. Certaines religions disent qu'il faut aimer les personnes qui nous aiment et détester les personnes qui nous détestent. Mais le christianisme dit, non, il ne faut pas faire ça, mais il faut aller au-delà de ça. Et donc, il faut aimer nos ennemis. Bénissez ce qui nous maudisse. La vie sur terre n'est pas l'objectif primordial de la vie, donc c'est juste un moyen pour atteindre la vie éternelle. La vie sur terre n'est pas non plus quelque chose qui n'a aucune valeur. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne réfléchit pas à la mort en tant que mort, que la vie de l'au-delà, mais on réfléchit à la vie sur terre, que c'est un talent que le Seigneur nous a donné afin de préparer notre éternité. Et dernier point, qui est donc la vie éternelle. Donc, certaines religions donc, disent qu'il n'y a pas de vie éternelle, donc il faut profiter au maximum des plaisirs matériels. D'autres religions disent que l'éternité n'est que des plaisirs matériels, sensuels, donc des fleuves de miel, des jardins, et ainsi de suite. Alors que la religion chrétienne, pour résumer l'éternité, c'est la présence avec le Seigneur, ce qui prouve qu'on peut vivre l'éternité à partir de la vie sur terre, puisqu'il suffit d'être avec Dieu pour vivre cette éternité. Pour conclure, donc la religion chrétienne, elle évite les positions extrêmes, donc comme vous avez vu, on n'a pas des points de vue extrémistes, d'où sa fiabilité, sa crédibilité et son influence sur beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui a été confirmé par Gandhi, c'est que c'est une nouvelle loi qui a été établie par le Seigneur. La religion chrétienne est différente. Ce n'est pas un ensemble de croyances, mais c'est une vie et un comportement. Puis, d'après la Bible, la religion, et ça même on peut le voir dans l'épître de Saint Jacques, qui définit c'est quoi la religion aux yeux du Seigneur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, ça c'est juste à titre d'exemple pour vous montrer que même dans l'Évangile, si on veut définir une religion, on la définit par rapport à un comportement. Donc c'est faire de la charité avec des orphelins, des veuves, et donc le repentir qui est se préserver donc des souillures du monde. Finalement, et ça c'est un point qui est très important et qui mérite d'être développé, mais plus tard, puisque c'est pas le bon moment de le faire maintenant, c'est que la religion chrétienne respecte la liberté et le choix. C'est que toujours le Seigneur, il nous donne la liberté de faire un choix. Il ne nous a jamais imposé quelque chose. Même Adam et Ève, il leur a donné le choix depuis le début de la création. Et jusqu'à aujourd'hui, on a le choix de soit vivre avec le Seigneur, soit vivre loin de lui. Ok? Donc pour les références, donc évidemment la Bible puis pour tous les versets, puis le cours d'Abuna Daoud Lamaï, donc The Reliability of the Christian Teaching, et puis le livre de Gandhi. Et questions, commentaires? Bon, merci.